Les images que je vous propose maintenant sont très fortes, elles se passent de tout commentaire. Un bateau chargé à ras-bord de réfugiés vietnamiens tente de s'approcher du rivage. Le bateau va couler, des réfugiés vont mourir.
1975, Asie du Sud-Est. Les Khmers rouges prennent le pouvoir au Cambodge, le Pathet Lao triomphe au Laos, et le Viet Minh, l'armée du Nord-Vietnam, provoque la chute de Saigon, la capitale du pays. C'est le début d'une immigration de plus d'un million de personnes, principalement par la mer. Ils seront rapidement désignés les Boat People.
Leur tragédie ne fait plus la une de l'actualité, mais elle continue bien de frapper à longueur de semaine des Vietnamiens qui, à bord de bateaux de fortune, tentent de fuir leur pays et souvent se noient en mer.
La fermeté de Mme Thatcher, elle renvoie 51 Boat People de Hong Kong vers le Vietnam. Protestations internationales.
La Terre a quelques encablures. Après 40 jours de voyage, Eu Phoc Yeung et ses 226 compagnons découvrent enfin les côtes de France, la France qu'ils n'ont jamais vue et dont ils attendent tout.
La télé française diffuse les images de ces bateaux de fortune inadaptés sur lesquels sont entassés des réfugiés. 130 000 personnes exilées de l'Asie du Sud-Est arrivent en France entre 1975 et 1990. C'est l'histoire de noyades, de maladies, de famines, du froid, d'attaques de pirates. Je me suis demandé, étant d'origine vietnamienne, que doit-on faire de cette partie de notre histoire et comment la dépasser quand elle a été mise à distance.
Vous écoutez Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. Boat People, la mer se souvient. Un épisode signé Zoé Van Arat.
Je suis Marine Bachelot Nguyen et je suis autrice et metteuse en scène. Alors moi, ma mère est vietnamienne, née au Vietnam.
Le dernier spectacle que Marine Bachelot Nguyen a mis en scène s'appelle Boat People. Avec 6 comédiens, elle revient sur l'histoire de ces 130 000 immigrés d'Asie du Sud-Est qui sont arrivés en France à partir de 1975.
Elle est arrivée en France avec sa famille, non pas à l'époque des Boat People, c'est-à-dire après 1975, elle est arrivée vers 56-57, donc après Dien Bien Phu, après la guerre d'indépendance ou la guerre d'Indochine. Mais moi, plus largement, je trouve tout ça vraiment intéressant d'interroger cette histoire française et vietnamienne, enfin cette histoire coloniale et postcoloniale, et de comprendre, mieux comprendre aujourd'hui effectivement la présence importante de populations du sud-est asiatique, vietnamien, cambodgien, laotien, ex-pays de l'Indochine, au sein de la France. Globalement, moi, je m'intéresse à ces histoires des diasporas, des immigrations, des colonisations.
La dernière pièce de Marine Bachelot Nguyen s'appelle « Boat People ». Elle revient sur ce phénomène migratoire par l'histoire d'une famille française qui accueille une famille de réfugiés vietnamo-laotiennes. Pour documenter son travail, elle a multiplié les entretiens avec des personnes qui ont vécu cette traversée.
J'ai essayé d'orienter un peu les entretiens sur un récit qui soit assez complet, c'est-à-dire qu'ils partent du moment du départ, du projet du départ, de comment se fait ce départ qui peut être effectivement sur l'eau, sur la mer, sur ces embarcations de fortune telles qu'on les a un peu en tête. Mais j'ai aussi rencontré des boat people qui ne sont pas partis par bateau, mais qui sont partis du Laos, du Cambodge en traversant le Mékong et plutôt par la forêt, par des voies terrestres, etc. Une chose que moi, je ne savais pas si bien que ça, en fait, aussi toute l'expérience de quand on réussit à traverser la mer ou la jungle et les terres, cette arrivée, ces séjours dans les camps de réfugiés, dont les souvenirs sont parfois un peu flottants pour les personnes, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'ennuis, beaucoup de sensations de temps étirées, de longues démarches. Donc d'essayer d'avoir les souvenirs de la traversée, d'avoir les souvenirs et des éléments sur les camps de réfugiés. Évidemment, ce qu'il et elle traversent est extrêmement périlleux. La mort n'est pas loin, la menace n'est pas loin. Et, Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup constaté chez plusieurs personnes que j'ai interviewées. Évidemment, on est mené par ce but d'arriver à partir, d'arriver à aller dans un pays occidental. Et une fois sur place, il y a quelque chose, mais qui est aussi de l'ordre du rapport au trauma, aux événements douloureux, et que l'idée, c'est d'avancer, de réussir ce projet d'intégration, de réussite professionnelle et sociale dans le nouveau pays, en France.
Ces traumatismes de guerre, cette douleur et l'extrême précarité vécue à bord des embarcations ont vite fait place à la pression, à la bonne intégration de ces exilés. En 2012, Nicolas Sarkozy salue la communauté d'un grand discours pour le Nouvel An asiatique, dans lequel il affirme que la France est fière. La France est reconnaissante de compter en son sein des citoyens aussi exemplaires, aussi dévoués, aussi travailleurs.
On a cette image de l'exemplarité, des réussites sociales des personnes asiatiques. En réalité, ça a été extrêmement dur pour les personnes qui sont arrivées jeunes adultes ou adultes, puisque on sait bien qu'il y a un déclassement de fait dans l'exil, et que les qualifications professionnelles ou les diplômes ne servent plus à grand chose quand on arrive en France. Et beaucoup de gens ont enchaîné les petits boulots, aussi dans une chose de survie, mais après d'essayer d'installer quelque chose quand même pour leurs enfants et pour accomplir cette réussite-là. Mais il y a aussi beaucoup d'anciens, anciennes boat people et leurs enfants qui n'ont pas réussi à supporter la pression, et qu'il y a aussi beaucoup de destins qui sont entachés de nouveau la présence de la mort, des accidents de voiture un peu brusques, des addictions, que ce soit à l'alcool, des problèmes psychiques. En fait, il y a beaucoup de personnes aussi dans les familles vietnamo-descendantes ou d'autres du Laos et du Cambodge où il y a des problèmes psy, et ça se comprend. Il y a toujours cette espèce de paradis perdu, de nostalgie coloniale, avec toute son imagerie parfois exotisante, et qui, je pense, doit vraiment être connu, digéré, traité, questionné, parce que sinon, je pense que l'espèce de a priori positif sur l'immigration asiatique vient aussi de cette nostalgie. On aime bien ces petits asiatiques ou ces jolies femmes qui font très bien la cuisine et qui n'ouvrent pas leur bouche. Donc il y a tout cet imaginaire qu'il faut vraiment déconstruire. Ce qui est très très frappant, moi, quand on a parcouru les images d'archives là, post-75, post-Boat People, au moment de la vague d'immigration des Boat People, à la télé, etc., et dans les journaux, ils n'arrêtent pas de parler d'Indochine. Les Indochinois, l'Indochine, etc. Pardon, mais l'Indochine, c'est fini depuis 1954, mais on en parle encore après 75 ou début des années 80. Donc, qu'est-ce qui fait que dans cet imaginaire français, ça existe encore? Et de déconstruire aussi les imaginaires coloniaux et ce truc, mais qui est toujours présent aujourd'hui. On aime bien avoir ce truc des petits asiatiques mignons, doux, dociles. Ce sont quand même des stéréotypes qui perdurent. Donc moi, je pense que c'est extrêmement important de déconstruire ces imaginaires pour pouvoir être le plus possible sur un pied d'égalité aujourd'hui. C'est important pour moi sur ces récits manquants qui, pour moi, font complètement partie de l'histoire de France et qui sont des réalités trop, trop peu connues. Les spectateurs y sortent en disant « mais je ne connaissais rien ou si peu à cette histoire ». Et donc, du coup, pour moi, il y a aussi cette fonction de mettre en partage ces récits qui nous concernent tous et toutes. C'est important d'un point de vue intime, individuel, mais aussi de ce que ça ouvre collectivement.
C'est vrai que je suis dans une période de ma vie où je recherche un petit peu les miens, entre guillemets.
Michael Nguyen, 31 ans, spectateur.
Le fait d'être avec une double culture, t'as du mal à trouver ta place. Tu cherches en permanence à trouver des gens qui, comme toi, sont issus d'une culture, mais qui ont réussi à s'en détacher. Moi, dans mon cas particulier, je suis encore dans la phase de recherche. Est-ce que je me sens perdu moins que, on va dire, il y a 5 ans? Maintenant, je comprends un peu plus ma place au sein de la société. Mais on se pose souvent toujours la question, est-ce que je fais ça par influence, on va dire, environnementale, ou est-ce qu'on fait ça de son propre chef ?
En fait, que ce soit visible, ces récits, d'entendre genre du vietnamien, ça fait quelque chose d'entendre sa langue maternelle alors que je parle pas très bien vietnamien. Ça m'a vraiment touchée beaucoup, très fort.
Eli Tran, 26 ans, spectatrice.
Mon comportement, mon imaginaire, comment je perçois le monde, il m'appartient pas vraiment. Il est un produit de toute cette histoire coloniale et d'immigration, d'exil, de tout ça, et c'est hyper complexe. Et se rendre compte que mon identité, finalement, genre, elle est obstruée par ça, bah de se construire son identité, ensuite, c'est vraiment, tu te rends compte que c'est un énorme taf. Donc, ça me laisse pas indifférent. Et ensuite, du coup, je me rends compte que ma mamie, qui est venue faire ses études de médecine en France, elle nous parle toujours de comment elle a réussi. Elle nous parle jamais de avant son rapport au voyage, son rapport à... Enfin, en fait, je lui demande... Tu es qui, en fait ? Donc ça, c'est une lettre que j'ai écrite à ma mamie, mais je sais pas si je vais lui envoyer, tu vois. C'était sur le moment. Banoï, cher Banoï, aujourd'hui, j'ai été voir une pièce de théâtre qui s'appelle Boat People, écrite par une franco-vietnamienne, Marine B. Nguyen. J'ai beaucoup pensé à toi. Tu me racontes souvent comment tu as travaillé dur en arrivant en France pour t'intégrer, pour réussir, pour atteindre l'excellence et prouver que toi, enfant qui n'était pas de cette terre, tu étais quelqu'un, que tu existais, que tu le méritais. Je sais à quel point tu as travaillé dur, mais Banoï, je ne sais pas tout ce qu'il y avait derrière tout ça, ce qui te donnait cette force, ce qu'il y avait avant, ce que tu as traversé pour en arriver là. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir ? Quelle mer et quelle terre tu as parcouru ? Comment ? Par quels moyens ? Est-ce que tu as dû attendre ? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta chair ? Qu'est-ce qu'il t'est resté ? Pourquoi tu n'en parles pas ? Est-ce que tu as choisi le silence ? Ou est-ce que les souvenirs sont difficiles ? Qui étais-tu, loin de tes frères et sœurs ? Pourquoi tu étais seule ? Est-ce que le silence te protège ? Est-ce que l'oubli te console ? Est-ce que tu es seule avec tes chagrins ? S'il te plaît, parle-moi de toi, de la vraie toi, l'enfant déraciné et solitaire.
Pour d'autres asio-descendants, il faut aller de l'avant et se détacher de ce traumatisme des générations précédentes, sans pour autant s'y raccrocher, pour aussi inventer d'autres images du Laos, du Cambodge et du Vietnam. Y aller peut-être pour se rendre compte que ces pays sont aussi capables d'autres choses, et se souvenir de cette histoire quand on regarde les nouvelles migrations. Parce que raisonner avec la réalité, c'est aussi une préoccupation de Marine Bachelot Nguyen dans son travail autour de Boat People.
Ça résonne avec les réalités migratoires, avec l'indifférence qu'il y a sur les Boat People d'aujourd'hui, que ce soit ceux et celles de la Méditerranée ou de la Manche, qui crée vraiment un espèce de contraste historique de fou. Je pense que c'est important, en fait, de redire qu'en vrai, les pays occidentaux sont tellement, enfin, sont en capacité d'accueillir de nouvelles personnes, et c'est l'histoire de France.
C'est notamment par la mer Méditerranée et par la Manche que des bateaux pneumatiques surchargés s'élancent pour fuir la misère et la guerre. En 1975, Han Li, une grande artiste vietnamienne, chantait son titre Bien No. Ce serait la musique que les immigrés chantaient quand les bateaux s'élançaient pour leur long périple. La mer se souvient, dit-elle. La mère se souvient.
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai có bâng khuâng gọi thầm.
ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà
c'était Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Zoé Van Arat en novembre 2025. Coordination, Céline Aslo et Thomas Rozek. Mixage, Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.